Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Julien.
Le football en République démocratique du Congo, où la phase retour du championnat national peine à démarrer.
Prévu le 11 janvier dernier, les premiers matchs n'ont pas pu se jouer en raison d'un conflit entre la fédération et la Ligue nationale. De quoi mettre les clubs et leurs joueurs dans des situations délicates, Pascal Mwangala.
Pour la jeunesse sportive Groupe Bazano, victorieuse du FC Saint-Éloi le Popo le 12 décembre dernier, l'ambition a été d'enchaîner pour quitter la zone rouge. John Pueto, 20 ans, est un attaquant international congolais de ce club de Lubumbashi engagé en première division.
L'entraînement prépare les matchs. Si tu sais que j'ai match le 17 janvier, à partir du 10 décembre, je commence déjà à travailler parce que tout joueur connaît son corps et ses faiblesses. Sans savoir la date, sans savoir si c'est les playoffs, si c'est la phase retour, ça démoralise un peu.
Une situation qui empêcherait à tout le football de RDC d'attirer le respect au niveau international, à en croire Yves Diba, ancien léopard de RDC.
Nous devons rendre productif, attrayant le football congolais, et cela passe par la régularité des matchs.
Arrivé lui, il y a 2 ans, à la tête du staff technique du FC Tanganyika, promu cette saison en première division, le coach franco-tunisien Saber Ben Djabria espère que la situation va changer au plus vite.
On dort trop, il n'y a pas de compétition, il y a des petits pépins physiques, pépins mentaux, c'est très difficile de motiver les joueurs. On aime les challenges, le souhait c'est que le championnat vienne le plus rapidement possible.
Mazembe et Maniema Union sont pour l'instant les deux victimes de ce manque de championnat suite à leur élimination en campagne africaine, estime d'aucuns. Pascal Mwangala, Lubumbashi, RFI.
Le foot africain qui agite également le mercato européen avec des mouvements de joueurs conclus et d'autres à venir.
Et d'abord celui de François-Régis Mouguet, l'attaquant camerounais de 20 ans, sous contrat jusqu'en 2028 avec l'Olympique de Marseille. Il s'envole pour la Grèce où il est prêté avec option d'achat à l'Athènes Kalitea, actuel avant-dernier du championnat. Autre mouvement à venir, celui de l'attaquant ivoirien Wilfried Zaha qui devrait casser son prêt avec l'Olympique lyonnais pour être prêté 18 mois à Charlotte en MLS.
Et puis en Allemagne, celui qui fait les gros titres, c'est Omar Marmoush.
Selon plusieurs médias, l'Égyptien devrait s'engager avec Manchester City. Le fruit de ses 15 buts et 9 passes décisives, à un total qui pourrait grossir ce vendredi lors de la 18e journée de Bundesliga, où son club, l'Eintracht Francfort, 3e, reçoit Dortmund, 10e. Dino Topmöller, l'entraîneur de Francfort, a d'ailleurs les yeux de chimène pour son attaquant égyptien.
Nous verrons bien comment il va se comporter par la suite, s'il bouge ou pas. Mais honnêtement, Omar, ce n'est pas une surprise pour moi, sa façon d'être, son rendement. Je le connais depuis 1 an et demi et c'est vraiment un garçon formidable. Il essaye toujours de faire de son mieux pour l'équipe. Il ne se prend jamais au sérieux. Et bien sûr, il nous aide beaucoup grâce à ses qualités. Nous sommes très heureux de l'avoir. C'est un excellent joueur d'équipe. Ce n'est pas un égocentrique ou quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Et c'est très amusant de travailler avec ce type de joueur et tous les autres.
Francfort-Dortmund pour les amateurs de Bundesliga. Coup d'envoi 19h30 temps universel.
On termine avec le handball et 3 déceptions africaines au mondial masculin.
3 engagés, 3 défaites dans les rencontres de jeudi. Dans leur groupe B, l'Algérie et la Tunisie ont plié, respectivement face à l'Italie et au Danemark. Entrée en lice contrariée aussi pour le Cap-Vert, largement dominé par l'Islande, 34-21. Ce vendredi, l'Égypte, championne d'Afrique en titre, affronte Bahreïn et la Guinée se mesure à la Hongrie.
Merci Antoine Grenier.
RFI, toute l'actualité, Julien Coquel-Rohem.
Un accord conclu, c'est ce qu'annonce cette nuit le bureau de Benjamin Netanyahou. Après une journée d'incertitude où le Premier ministre israélien a accusé le Hamas de revenir sur certains points du texte annoncé mercredi, le cabinet de guerre israélien devrait finalement approuver ce matin ce plan en 3 phases pour un cessez-le-feu et la libération des otages israéliens encore détenus dans la bande de Gaza. Les ONG humanitaires se disent prêtes à livrer massivement de l'aide dans l'enclave, mais restent dans l'incertitude sur le nombre de postes frontières qui seront rouverts, l'état des routes et les risques de pillage. En attendant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu prévu dimanche, les bombardements israéliens se poursuivent. Sur la bande de Gaza, le ministère de la Santé du Hamas évoquait hier 81 morts en 24 heures. Lui est arrivé à Beyrouth. Emmanuel Macron au Liban dans une visite annoncée en soutien au nouveau président Joseph Aoun et à la formation d'un nouveau gouvernement. Le président français doit rencontrer le président, son nouveau premier ministre, et les représentants des principales forces politiques. Pourraient-ils croiser aussi Anthony Blinken, Le chef de la diplomatie américaine pour encore quelques jours est en tout cas lui aussi au Liban. Le président ukrainien et le premier ministre britannique signent un partenariat sur 100 ans entre leurs deux pays. Keir Starmer était à Kiev hier. Le document prévoit un renforcement de la coopération en matière de défense et de sécurité maritime, mais aussi des partenariats scientifiques et technologiques. Enfin, en France, le premier ministre François Bayrou échappe à la censure et la gauche se déchire. Le Parti socialiste n'a pas voté la motion soutenue par ses trois autres alliés, insoumis, écologistes et communistes. C'était il y a 2 ans, jour pour jour, au Cameroun, le 17 janvier 2023. Le journaliste Martinez Zogo était enlevé et assassiné. Depuis 10 mois, 17 personnes comparaissent devant le tribunal militaire de Yaoundé, mais aucun accusé, aucun témoin n'a encore été entendu et le procès s'enlise dans des débats de procédure. Alors le tribunal joue-t-il la montre pour gagner du temps? Le chroniqueur judiciaire Christophe Bobiokono est directeur de publication de l'hebdomadaire d'information juridique Kalara. En ligne de Yaoundé, il est notre grand invité Afrique avec Christophe Boisbouvier.
Christophe Bobiokono, bonjour.
Bonjour.
Depuis le début du procès, il y a 10 mois, les débats s'enlisent dans des questions de procédure interminables. Est-ce que c'est voulu de la part du tribunal militaire ?
Alors, avec le temps, on peut effectivement penser que ce qui se passe est voulu. Parce que en ce moment, depuis à peu près 2 mois, le procès s'est quasiment arrêté au tribunal militaire de Yaoundé parce que les juges ont pris une décision et les questions posées par cette décision-là sont soumises à l'examen de la cour d'appel du centre.
C'est-à-dire que le tribunal militaire a modifié l'ordonnance de renvoi, ce qui oblige un autre tribunal à se prononcer en ce moment, c'est ça ?
Oui.
Est-ce que depuis le début du procès, l'un des principaux acteurs, l'un des principaux témoins a pu s'exprimer ?
Aucun des témoins, aucun accusé n'a été entendu jusqu'à présent par rapport aux faits qui sont la cause de la procédure judiciaire. Ils ont simplement plaidé non coupable pour l'ensemble d'entre eux lorsque la question leur a été posée. C'est tout ce qu'ils ont pu faire jusqu'à présent.
Alors parmi les 17 accusés, l'un des principaux est Justin Danwe, l'ancien numéro 2 des services secrets de la DGRE. Il serait passé aux aveux. Mais qui sont les commanditaires ? Je crois que c'est la grande question. Et 3 autres personnalités importantes sont dans le box des accusés, hein.
Tout à fait. Ceux qui pourraient apparaître comme les commanditaires de l'affaire, c'est l'ancien DG de la DGRE, M. Léopold Ekoeko et M. Jean-Pierre Amoukoubilinga, qui était le patron du groupe L'Anecdote. Et M. Martin Savoie, il est accusé de complicité d'assassinat, pour ce qui le concerne.
Et c'est le maire de la commune de Bibé, qui est dans la périphérie de Yaoundé. Et alors, toutes ces personnalités, l'homme d'affaires Jean-Pierre Amoukoubilinga, l'ancien patron des services Léopold Ekoeko et le maire de Bibé, Martin-Stéphane Savome, tous plaident non coupables.
Tous les accusés ont plaidé non coupables, tous sans exception. Et cela signifie simplement que même si certains reconnaissent certains faits, ils pourraient dire que ces faits-là n'ont pas été posés dans le cadre de la commission de l'infraction.
Oui, je crois que le numéro 2 de la DGRE, Justin Danwe, reconnaît qu'il est impliqué dans l'enlèvement de Martinez Zogo, mais pas dans son assassinat. Est-ce que les 3 autres personnalités dont on a parlé reconnaissent elles aussi être impliquées dans l'enlèvement ?
Ni M. Léopold Ekoeko, ni Jean-Pierre Amoukoubilinga, ni le maire de Bibé, M. Martin Savom, ne reconnaissent leur implication dans ce qui s'est passé. Et on peut comprendre puisqu'ils ont plaidé non coupables.
Alors on connaît les luttes de clans qui existent actuellement au sommet de l'État camerounais. Est-ce qu'il y a des connexions entre ces luttes de clans et l'affaire Martinez Zogo ?
Ben, disons que le contenu des informations que nous avons pu compulser dans le cadre de l'enquête menée par la police, l'information judiciaire, ne donne pas trace de ces implications-là. Mais on peut dire que ces luttes des clans-là ont quand même influencé l'enquête en elle-même. Pourquoi ? Parce que la première personne qui en parle est M. Léopold Ekoeko dès sa première audition. Il laisse entendre qu'il est entre deux feux et il parle de manière très claire des clans qui combattent pour la succession du président Paul Biya. Et on sait très bien que M. Dupont Ekoeko a été arrêté et pendant qu'il était déjà en prison a conservé le poste de DG de la DGRE. Et ce n'est qu'à la suite de l'ordonnance, de la fameuse ordonnance de mise en liberté du 1er décembre 2023 que finalement le président de la République lui a ôté la casquette de patron de la DGRE. Donc on suppose qu'à ce moment-là, des influences politiques ont pu entrer en jeu pour permettre cette évolution des choses.
Le Cameroun va rentrer en campagne électorale puisque la présidentielle est prévue au mois d'octobre. Est-ce que le procès pourra se tenir en pleine campagne ?
Bien sûr, le temps le temps de la justice n'est pas le temps du politique. De toutes les façons, dès lors que personne pour l'instant ne pointe le président Biya dans ce qui s'est passé, sa responsabilité dans ce qui s'est passé, cela pourrait très peu influencer le débat politique.
Alors pour l'instant, le procès est suspendu dans l'attente d'une décision de la Cour d'appel du centre. Est-ce que les juges du tribunal militaire jouent la montre ?
Oui, il semble que, enfin il apparaît que les juges du tribunal militaire jouent quand même la montre, parce que certaines des parties avaient sollicité des audiences en session, ça signifie la possibilité pour le tribunal de connaître l'affaire pendant plusieurs jours d'affilée, mais les juges n'ont pas trouvé nécessaire de répondre à cette question-là, en tout cas ils ont repoussé cette demande-là, donc jusqu'à présent les audiences sont séparées et sont tenues toutes les 3 semaines. Donc pour une affaire qui compte 17 accusés, ça peut durer de manière interminable.
Christophe Bobiocono, merci.
Le chroniqueur judiciaire Christophe Bobiocono, invité RFI Matin de Christophe Boisbouvier. Et comme chaque jour de la semaine, un œil sur l'actualité des matières premières, c'est l'une des conséquences du changement climatique. Au Maroc, la sécheresse dure depuis près de 7 ans, avec en plus de cela des pics de chaleur importants l'an dernier. Résultat, très peu d'olives dans les champs et des prix de l'huile d'olive qui ont grimpé en flèche pour les Marocains ces derniers mois, Justine Fontaine.
Oui, ils ont presque doublé depuis 2 ans pour atteindre 80 à 110 dirhams aujourd'hui, soit 8 à 10 euros le litre environ. En cause, une récolte particulièrement mauvaise cette saison, moitié moins importante qu'une année normale. La cueillette qui a commencé en octobre se poursuit jusqu'à la fin du mois et le Maroc pourrait ainsi voir chuter sa production d'huile d'olive à 80 000 tonnes, estime l'interprofession marocaine de l'olive. Des niveaux très bas, pointe son président Rachid Ben Ali. Et cela, c'est une conséquence directe de la sécheresse qui touche le Maroc depuis près de 7 ans et qui a été combinée l'an dernier à des pics de chaleur très importants, y compris hors saison, en pleine période de floraison de la variété la plus répandue dans le pays, la picholine marocaine. Certains oliviers n'ont donc pas du tout fleuri ou bien leurs fruits ont séché sur l'arbre avant d'arriver à maturité. Du jamais vu, s'alarme Rachid Ben Ali. Alors, pour freiner la hausse des prix et répondre à la consommation nationale, le gouvernement marocain a mis en place des quotas d'importation, jusqu'à 20 000 tonnes d'huile pour 2025. De quoi permettre de stabiliser les prix, estime l'interprofession. Pour une éventuelle baisse, en revanche, il faudra attendre au mieux la prochaine récolte. Toutefois, la production faible au Maroc ne devrait pas perturber le marché mondial de l'huile d'olive, car après 2 années de crise liées là aussi à la sécheresse, la production à l'échelle de la planète est attendue en hausse de 30% cette saison pour revenir à des volumes conformes à la moyenne. C'est grâce à une meilleure récolte en Espagne notamment, premier producteur et exportateur mondial. Hors du Maroc, donc, les prix de l'huile d'olive devraient baisser pour les consommateurs cette année. L'huile en vrac pourrait être achetée aux producteurs autour de 4 euros le kilo en moyenne, contre 8 euros encore en septembre dernier, estime Abdelatif Guedira, ancien président du Conseil oléicole international.
Justine Fontaine pour les matières premières, merci beaucoup. Bientôt 6h, en temps universel, un nouveau journal dans moins de 5 minutes sur RFI et tout de suite les dessous de l'Infox. Votre rendez-vous du vendredi qui nous emmène ce matin aux États-Unis, à Los Angeles, où les pompiers tentent toujours de contenir les flammes plus d'une semaine après le début des incendies. Le dernier bilan fait état de 24 morts et les destructions sont immenses. Une catastrophe historique marquée par un flot de fausses informations d'une rare intensité sur les réseaux sociaux. Bonjour Grégory Genevrier.
Bonjour.
L'origine de ces incendies, le travail des pompiers, les rescapés, rien n'échappe à la désinformation, à tel point que certaines des images les plus partagées sont fausses ou sorties de leur contexte.
Oui, si vous avez passé du temps sur les réseaux sociaux ces derniers jours, vous êtes probablement tombé sur l'une de ces deux images aériennes montrant une maison au toit rouge, prétendument épargnée par les flammes. Tout le quartier semble avoir été détruit, sauf ces luxueuses résidences. Si les deux maisons se ressemblent, ce ne sont pas les mêmes, l'une est en bord de mer, l'autre en pleine ville. Les internautes qui partagent ces photos en sont persuadés. Elles montreraient, je cite, « la maison d'un croyant de Los Angeles, miraculeusement protégée par Dieu ». Un récit sur lequel plusieurs auditeurs nous ont alertés.
Sauf que ces deux images n'ont rien à voir avec les incendies en cours à Los Angeles.
Non, la première photo est bien authentique, mais elle n'a pas été prise dans la Cité des Anges. Une recherche par image inversée permet de retrouver sa trace dans la banque d'images de l'agence France Presse. On y apprend en légende qu'elle montre une maison dans le quartier de l'Aena à la suite des incendies mortels à Hawaï en août 2023. La résidence avait été épargnée, notamment grâce à sa toiture en tôle épaisse et à l'absence de végétation à proximité.
Et qu'en est-il du deuxième cliché ?
Eh bien, si visuellement tout semble réel, l'image a en réalité été générée par une intelligence artificielle. Le seul moyen de s'en rendre compte, c'est de faire une recherche par image inversée sur Google, puis d'aller dans l'onglet « À propos de l'image ». Un message apparaît alors indiquant « Image créée avec l'IA de Google ».
Comment Google sait-il que quelqu'un a généré cette image avec son intelligence artificielle ?
Pour son outil de génération d'images baptisé Imagen, la firme américaine utilise ce que l'on appelle des « watermarks », des filigranes invisibles à l'œil nu mais identifiables par un logiciel. Ce tatouage numérique atteste donc de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mais sans faire cette démarche de vérification, il est impossible de s'en rendre compte.
Et une image synthétique qui fait l'objet, Grégory, de nombreuses instrumentalisations ?
Oui, religieuses d'abord, avec de nombreux messages parlant d'une intervention divine. Certains affirment à tort que cette maison appartenait à une famille chrétienne, d'autres à une famille musulmane. Et puis certains complotistes ont aussi diffusé cette image, assurant que l'incendie était volontaire et ne ciblait que certaines habitations. De récits trompeurs vus des dizaines de millions de fois sur les réseaux sociaux. Résultat, cette infox se figure aujourd'hui parmi les images les plus vues concernant les incendies de Los Angeles. On est donc là face à un énième exemple de détournement de l'IA qui perturbe les perceptions d'un événement mondial et invisibilise les vraies images de la catastrophe.
Grégory Genevrier pour les Dessous de l'Infox. Merci beaucoup. Et ces incendies à Los Angeles, on fait le point justement à leur sujet avec notre envoyé spécial sur place. C'est dans le journal, dans 30 secondes. À tout de suite.
Milliards de voisins.
Laurence Garcia attend vos témoignages sur le thème d'aujourd'hui.
À l'occasion des 50 ans de la loi Veil qui a légalisé l'avortement en France, comment expliquer le recul de ce droit des femmes partout dans le monde ? Et qu'en sera-t-il dans l'Amérique de Donald Trump ?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 337 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.